Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Vous suivez bien la radio Nzamba Gateka Kawe. C'est le moment de suivre le journal de ce mardi 12 mars 2024. Voici tout de suite les titres. Où est Agnès Nibiranije, la représentante des femmes membres du parti Sénel à Kayanza, est introuvable depuis dimanche, le jour où elle a été arrêtée avec d'autres membres de son parti. Ses proches sont très inquiets. Le gouverneur de Muyinga est accusé de favoritisme dans la distribution du carburant. Selon les automobilistes, il fait servir les seuls cadres de l'État au détriment des autres. Et puis la sortie dramatique de Dynamo du tournoi africain de basketball en Afrique du Sud ne laissera pas indemne l'image du Burundi. C'est ce que nous dira Chovino Mugwengezo, président du parti UPD de Gamibanga, pour qui la décision du gouvernement de ne pas laisser jouer cette équipe est une honte. À toutes et à tous, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce journal.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Agnès Nibiranije, représentante des femmes membres du parti Sénel dans la province Kayanza, est portée disparue depuis dimanche dernier. Elle avait été arrêtée le même jour avec d'autres militants du Sénel fidèles à Agathon Rwasa. C'était le jour où s'est tenu à Ngozi le congrès extraordinaire qui a mis en place de nouveaux dirigeants de ce parti. Les proches d'Agnès Nibiranije s'inquiètent et craignent pour sa sécurité. On fait le point avec Eddie Claude Nina Azoué.
Des sources à Kayanza nous disent qu'Agnès Nibiranije avait été arrêtée par la police avec d'autres militants du Sénel dimanche dernier. Ce qui inquiète ses proches, c'est que les autres membres du parti Sénel arrêtés le même jour ont été par la suite relâchés et qu'ils n'ont pas de nouvelles sur sa destination. Ils demandent que sa sécurité soit assurée.
Nous sommes très préoccupés par la sécurité d'Agnès Nibiranije. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où elle est. Avant, elle était au cachot de Ngozi, mais maintenant, personne ne sait où elle a été transférée. Nous demandons à tout le monde de plaider pour sa sécurité. Je demande au chef de l'État de faire en sorte que la démocratie au Burundi soit une démocratie qui respecte tout le monde, pas une démocratie qui privilégie les uns et écarte les autres, mais une démocratie qui met en avant la dignité et la liberté des citoyens.
Agnès Nibiranije et les autres militants du CNL proches d'Agathon Rwasa avaient été arrêtés dimanche le 10 mars de cette année, le jour où s'est tenu à Ngozi le congrès extraordinaire pour destituer Agathon Rwasa à la tête du parti, un congrès que d'aucuns ont qualifié de simulacre organisé par le pouvoir à des fins électoralistes.
Eddie Claude Nazwe, merci. Deux personnes des communes Ngozi et Ruhororo en province Ngozi ont été tuées dans la nuit de ce lundi à mardi. L'une serait un bandit pendant que l'autre aurait été assassinée pour cause de sorcellerie. Des enquêtes sur deux personnes soupçonnées d'avoir tué le présumé sorcier sont déjà en cours. Les détails dans son reportage de Pierre Garungu.
D'après des sources policières et administratives, celui qui a été tué en commune Ngozi était en compagnie d'un autre et tous étaient des bandits qui tentaient de s'introduire dans l'unité de production de diverses boissons dénommée Burundi Brewery située à Biegwa, alors qu'ils commençaient à lancer des pierres sur les lampes servant d'éclairage à cette unité pour créer l'obscurité afin de s'engouffrer dans les lieux. Un des policiers qui montait la garde a tiré sur eux. L'un d'eux est mort sur le champ, tandis que l'autre, qui n'a pas été identifié, est parvenu à prendre le large. La deuxième personne tuée au cours de la même nuit est un homme d'âge avancé, originaire de la colline Ezon Mubanga, en commune Ruhororo. Il est mort décapité. Les voisins pensent que ce serait pour cause de sorcellerie. Ses deux fils ont été appréhendés dans la matinée de ce mardi pour des raisons d'enquête.
Pierre Garungu. Et puis les militaires burundais devraient se rebeller contre leur renvoi à République démocratique du Congo pour combattre du côté des forces négatives, en l'occurrence des FDLR. C'est ce que dit Gratien Lukindikiza, un ancien officier de l'armée burundaise qui suit de près les questions de la sécurité dans la région des Grands Lacs. Il regrette que les Burundais sont plus exposés sur le champ de bataille par rapport aux autres forces parce qu'ils sont mis en avant lors des affrontements. Ils se heurtent à des défis insurmontables pour affronter les combattants du M23, comme celui de manque de maîtrise du terrain alors que le M23 est chez lui. Il demande aux militaires d'être solidaires pour mener cette révolte.
Pourquoi les militaires burundais acceptent d'aller au Congo de cette façon? On peut dire que c'est une seule raison. C'est la raison des carrières. L'armée burundaise a été formée depuis 1962, a été formée comme des fonctionnaires. Ils sont comme des fonctionnaires. Ils sont à l'armée, ils attendent à ce qu'ils aillent jusqu'à la retraite, à la pension, comme ils le disent. Et donc, de cette façon, ils se disent, quoi qu'il en soit, je vais faire en sorte que je reste dans cette armée. Quoi qu'il en soit, on m'envoie de tuer, je vais y aller dans le cadre de ma carrière. Non pas dans le cadre d'un patriotisme, de se dire que, en tant que patriote, je le fais ou je le fais pas. Mais c'est cette façon-là, le côté carriériste qui fait que les militaires burundais, ils sont prêts à faire n'importe quoi, mais en se disant, je vais me battre, si je reviens, au moins j'aurai la chance, j'aurai ma carrière, si je ne reviens pas, bon, tant pis. Ce qui fait que il y a un manque de patriotisme, un manque d'amour du pays, dans la façon de faire, on l'a vu dans l'histoire de l'armée burundaise, même si elle était mélangée, ça reste, l'âme reste ainsi. Alors, que devaient faire les militaires burundais individuellement ou collectivement? Individuellement, je dirais qu'on ne peut rien faire. Un seul militaire ne peut pas réagir, ne peut pas refuser d'aller se battre au Congo. Ça serait très compliqué pour ces militaires. Ça serait très catastrophique pour le seul militaire. Donc, il pourrait être, disons, tué. Mais les militaires peuvent, disons, réagir collectivement, peuvent se dire finalement, cette guerre ne nous concerne pas, nous refusons d'aller nous battre, mais ils refusent en commun, même s'ils refusent globalement dans un groupe, où il faut qu'ils essaient d'avoir, de rallier d'autres militaires, d'autres camps, parce qu'eux aussi finiront par y aller, et comme ils meurent, il y a une grande probabilité de mourir au Congo quand on va dans cette guerre, et la seule façon, c'est de se coaliser, comme ils n'arrivent pas à faire comprendre au président qu'il ne faut pas aller au Congo, à eux de prendre leur décision, ils ont changé le cours des choses. La façon de ne pas aller au Congo, c'est de changer le régime au Burundi. Donc ils ont les armes, c'est à eux de faire un coup d'état éventuellement pour changer le régime et refuser. Et ils ont rappelé les militaires qui sont au Congo.
C'était Graciel Okendi qui a une courte pause et on se retrouve pour la suite de cette édition.
Inzamba.
Grogne chez les automobilistes dont les véhicules roulent en mazout en province de Muyinga. Ils disent que le gouverneur de cette province, qui accorde la distribution du carburant dans sa province, ne fait servir que les seuls cadres de l'administration au détriment d'autres couches de la population qui en ont besoin. L'exemple qu'ils donnent est la distribution qui a eu lieu ce dimanche, où le favoritisme dans la distribution était, selon eux, trop flagrant. Olivia Gakima.
Ces habitants, propriétaires de véhicules qui consomment du mazout, disent que le gouverneur de la province Muyinga, chargé en même temps de la distribution du carburant dans cette province, n'a pas bien honoré ses engagements dans la distribution de ce dimanche. Il n'a favorisé que les seuls cadres de l'État au détriment d'autres couches de la population, dont ceux du secteur privé. Écoutez ces lamentations.
Je peux affirmer qu'il ne peut y avoir de développement quand les autorités continuent à faire du favoritisme dans les services qu'elles rendent à la population. Nous avons été sidérés par la distribution du mazout ce dimanche. Le gouverneur de la province, Jean-Claude Baltoinayo, n'a pas été bon serviteur. Il a privilégié seulement certains cadres de l'administration. Tous les 10 000 litres leur ont été distribués au détriment de ceux qui évoluent dans le secteur privé. Est-ce que le seul secteur étatique peut-il développer à une nation ou une province?
Ils disent que l'autorité provinciale a été injuste alors que tout le monde contribue au développement de leur pays.
Moi, j'ai considéré cela comme une injustice parce que le seul cadre de l'État ne pouvait en bénéficier seul. J'oublie que nous aussi avons notre part de contribution au développement de notre pays.
Ces habitants, dont la plupart sont du secteur privé, qui contribuent aux différents travaux de développement, demandent au gouverneur de la province Muyinga de considérer les travaux qu'ils font, car ils aident le pays dans différents secteurs.
Merci Olivia Gakima. Pour terminer, la décision des autorités burundaises d'empêcher à travers la Fédération de basketball du Burundi le club Dynamo de poursuivre la compétition de la Ligue africaine de basketball est une honte. C'est ce qu'estime Chovino Mugwengenzo, président du parti UPDS de Kamiwanga. Il s'exprime après l'exclusion du club Dynamo suite à son refus de porter le maillot de sponsor officiel portant la marque Visit Rwanda. Chovino Mugwengenzo estime que cette décision ternit gratuitement l'image du Burundi. Écoutez-le.
La participation de Dynamo à ce rendez-vous marque la fierté du Burundi. Le Dynamo est allé représenter le Burundi et c'est une bonne chose. Nous en sommes très fiers, nous en sommes très ravis et justement, nous étions là à attendre que Dynamo puisse remporter la coupe du tournoi qui est en train de s'organiser en Afrique du Sud. Mais nous devons aussi noter que la participation de Dynamo est une opportunité pour des investisseurs. Donc là, ça constitue vraiment une opportunité et pour le Burundi et pour les investisseurs et même pour la jeunesse aujourd'hui qui devrait prendre Dynamo comme modèle. Ce qui s'en est suivi est une honte nationale. C'est pas normal que le président de la République puisse s'offusquer pour dire aucun joueur n'est autorisé à mettre son barès où c'est marqué Visit Rwanda. Au-delà vraiment de tout ce qu'on peut attendre de ce président-là, l'opinion publique est sidérée. L'opinion publique nationale et internationale est sidérée de voir que le président peut retirer le club Dynamo de ce grand tournoi et il oublie qu'un pays peut rayonner grâce à sa bonne gouvernance, basée sur le respect des droits humains, basée sur tout ce qui constitue l'ossature même de la bonne gouvernance. Mais il peut aussi rayonner grâce au sport. Donc, il y a des choses qui ternissent inutilement notre image, alors qu'il y a moyen de rebondir, il y a moyen de se remettre en cause une bonne fois pour toutes et de rejaillir pour améliorer l'image de Burundi qui aujourd'hui ne fait pas l'unanimité de l'opinion publique nationale et internationale.
C'est ici que se termine cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba pour la production de son journal. Un grand merci à vous, chers auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Au revoir.